Et je voudrais vous encourager à ouvrir vos Bibles. J'encourage partout où je passe les amis qui connaissent le Seigneur à, dans toute la mesure du possible, ouvrir leur Bible pour suivre personnellement. Je crois que c'est une chose importante. Vous savez que c'est une habitude qui se perd. Je n'ai pas du tout le désir de mettre quiconque mal à l'aise quand on est dans un petit groupe, mais je me dois de le dire. Nos églises évangéliques sont en train, de quelque bord qu'elles soient, de perdre de bonnes habitudes. Et de plus en plus, on vit des rencontres, des cultes, de manière extrêmement passive. Dans une écoute assez passive, et contribue à cet aspect de passivité le fait de ne pas avoir sa Bible avec soi. Au point que, depuis quelques années en arrière, devant ce que je crois être une carence vraiment douloureuse et regrettable, parce qu'on voit les fruits mauvais que cela porte à la longue, j'ai introduit dans ma pédagogie d'enseignement des pièges. Des pièges qui consistent, en cours d'enseignement, à introduire, ici et là, dans mes lectures bibliques ou dans l'examen de tel ou tel passage, des erreurs. J'introduis volontairement des erreurs doctrinales où je modifie telle phrase, tel mot. Je préfère, vous voyez, je suis loyal, je vous préviens d'emblée, hein, et je l'ai fait le week-end dernier à Liège, avec nos amis africains, et c'était très très intéressant. Et je fais ainsi, mais ensuite, je demande à l'auditoire s'il est d'accord. Bien entendu, avec ce que je viens de dire ou de lire. Et je ne vous cache pas que je ne dirai pas un pourcentage, mais quasi chaque fois, un certain nombre de personnes, parfois la presque totalité de l'auditoire, en tout cas de ceux qui bougent, acquiescent aux erreurs prononcées. Au point qu'il m'est arrivé plus d'une fois de dire, eh bien écoutez, vous êtes mûr pour l'enseignement de n'importe quel faux docteur dans votre église. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Il y a à l'heure actuelle, dans nos pays en particulier, une confusion qui s'est installée dans un certain nombre de domaines, de doctrines et ce qu'on appelle d'éthique, la mise en pratique de la doctrine dans le domaine de la vie morale, qui ont leur origine dans cette passivité, dans ce non-contrôle. Vous savez que les Béréens étaient reconnus pour cette qualité, c'est qu'ils allaient voir dans les Écritures pour contrôler si ce qu'il leur était dit était exact. Donc, je verrai, en fonction de la manière dont nous suivons, malicieusement, mais avec des desseins bienveillants, je dresserai peut-être quelques pièges, je tendrai quelques pièges. Ici ou là, on verra comment les choses vont se passer. N'en prenez pas ombrage, mais de toute façon, vous savez, si vous en prenez ombrage, qu'est-ce que ça va changer? Je ne suis pas ici pour... je ne sais quel niveau de popularité, c'est pas mon problème. Ma question, c'est simplement d'être fidèle et de veiller à une véritable communication. Et une communication, nous aurons l'occasion d'en parler, avec Barnabas, on est obligé de parler communication, parce qu'il a été un communicateur extraordinaire de la part de Dieu, il y a un émetteur et il y a des récepteurs. Et si le travail de l'émetteur est extrêmement important, la qualité des récepteurs, le travail des récepteurs, lui aussi, est extrêmement important. Alors nous allons lire dans l'Ancien Testament, tout d'abord, et dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41. Les versets 6 à 10, Ésaïe 41, versets 6 à 10. Un beau passage, volontairement choisi pour introduire notre sujet. Donc Ésaïe 41. Je lis au verset 6 pour vous. Ils cèdent l'un l'autre. Et chacun dit à son frère, courage! Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Puis un contraste, hein, ce mais qui fait basculer le texte. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point, ne crains point, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je pense que vous avez grosso modo vu le contraste. C'est un texte donc qui est centré sur cette question qui va beaucoup nous préoccuper de l'encouragement, de la qualité relationnel dans l'église locale, des ponts à jeter entre nous, etc. Domaines dans lesquels a excellé, on peut le dire, à la lumière des Écritures, ce grand ami Barnabas. Et il est question ici du contraste entre des païens qui sont artisans, sculpteurs, qui travaillent les uns avec les autres, donc fondeurs, et qui sont en train de fabriquer, de tailler, etc., des idoles. Et ils sont courageux pour une activité. En tout cas, c'est l'Éternel qui le dit, quoi qu'il puisse en penser, qui n'est pas très gratifiante, puisque l'idole elle-même va devenir une charge pour ces hommes qui la fabriquent et qui s'encouragent mutuellement. Vous avez dans le prophète Ésaïe d'autres textes qui montrent que l'idole est muette, elle n'a aucune capacité de communication. De surcroît, souvent, les idoles étaient lourdes. Elles devenaient une charge pour la personne qui les hissait sur l'animal. Elles devenaient ensuite une charge pour l'animal lui-même. Vous avez un texte de ce genre dans le chapitre 46, hein, 46, verset 1 et suivant. « Belle s'écroule, Nebo tombe. » Ce sont deux des grandes divinités babyloniennes, Ésaïe 46, 1. Bel, c'est Marduk, Merodak, c'est la principale des divinités babyloniennes, et l'autre, c'est la seconde, le fils de Marduk. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes, vous les portiez, les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué, ils se sont tombés, se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau, c'est-à-dire l'idole, ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Puis alors après, là aussi, un contraste, écoutez-moi, maison de Jacob, vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai prise à ma charge, toujours l'idée de fardeau, hein, vous que j'ai prise à ma charge dès votre origine, que j'ai portée dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Vous avez le même contraste que dans Ésaïe 41. Parce qu'ensuite, hein, après ces versets 6 et 7, verset 8, grand changement avec alors ce verset 10 qui est parmi les versets préférés de bon nombre d'enfants de Dieu sur la terre entière. Hein. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dans ma Bible, j'ai des dates qui sont immédiatement à côté de ce verset, parce que ces dates correspondent à des moments où Dieu m'a soutenu, secouru, renouvelé d'une manière toute particulière dans des périodes qui étaient extrêmement difficiles, et il l'a fait en particulier avec ce verset. Voyez, contraste entre les idoles et le Dieu qui encourage, mais aussi défi à relever, parce que nous ne sommes pas un peuple idolâtre. Nous ne sommes pas des artisans qui fabriquons des idoles muettes, etc. Nous sommes le peuple d'un grand Dieu qui encourage et qui veut reproduire son caractère dans chacun de ses enfants, n'est-ce pas? Quel défi à relever! Si des gens de ce monde sont parfois capables d'un service d'encouragement et de solidarité, à combien plus forte raison nous qui appartenons au peuple de Dieu, à l'Église de Jésus-Christ, avons quelque chose à faire et à dire dans ce domaine. Voilà, en courte introduction, pour aller vers l'Évangile selon Jean au chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 15 à 18, Jean 14, versets 15 à 18, où Jésus, qui s'adresse au cercle restreint de ses disciples les plus proches, dont tous à une exception près allaient devenir apôtres, leur dit: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, auprès de vous, près de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Mettons-nous dans la peau des disciples qui vivent une situation extrêmement pénible. Ils subodorent des événements graves que Jésus a pris soin de leur annoncer pour les préparer. À plusieurs reprises, ils ont eu beaucoup de peine comprendre. Tant ils sont enfoncés dans leur système de pensée, et vous avez remarqué comment Jean 14 commence, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et en fait, Jésus, en quelque sorte, pourrions-nous dire, est comme sur son lit d'agonie. Hein. Il est en train de communiquer à ses plus proches son testament spirituel. À ses disciples désemparés, il apporte un message de réconfort. Il les sent terriblement découragés et il leur présente donc à plusieurs reprises le don prochain, proche d'un autre consolateur, littéralement, un consolateur de la même nature que moi. Le mot « autre », ça n'apparaît pas dans notre texte français, mais dans le texte grec, qui est le texte du Nouveau Testament. Et le mot « autre » ici signifie de manière très claire que c'est un autre de la même essence, de la même nature. C'est un autre moi, en quelque sorte, voyez, pour faire référence à Dieu le Saint-Esprit. C'est pas quelqu'un qui serait d'un niveau inférieur, non, c'est Dieu le Saint-Esprit qui est présenté ici comme le Consolateur. Alors vous allez me dire peut-être que dans la version de la Bible que vous avez sous les yeux, ce n'est pas le mot consolateur qui est utilisé. Effectivement, si, surtout maintenant que nous sommes un peu plus riches en version qu'il y a peu d'années encore, on voit des différences d'une version à l'autre. Et vous pouvez très bien avoir le terme défenseur à la place. Vous pourriez avoir encore d'autres termes. Le terme qui est utilisé ici, en grec, vous en faites pas, ça va pas être compliqué, mais vous allez comprendre pourquoi nous procédons ainsi. Mon but, c'est pas de vous en mettre plein le visage, ça ne m'intéresse pas, mais c'est aussi le rôle de l'enseignant, d'essayer d'éclairer certains aspects du texte, qui, vous allez le voir, vont beaucoup nous aider à mieux prendre la dimension du caractère et du service de Barnabas. Vous verrez, hein. Suivez simplement, je vais être simple, mais vous allez comprendre combien ce que nous faisons maintenant est utile. Vous avez un terme grec qui a cette particularité, c'est qu'il est d'une telle richesse dans ses significations possibles que les théologiens ont parfois préféré garder le terme grec et le franciser, c'est-à-dire le prononcer à la française. Et qu'on a eu des versions de la Bible et du Nouveau Testament dans lesquelles vous aviez... Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, ou paraclète, puisque ça se termine en ET, paraclète. C'est le terme qui est utilisé ici. Ce terme, vous allez le retrouver dans la suite du texte, un peu plus loin, dans les chapitres suivants, au chapitre 16, vous allez le revoir encore. En fait, vous allez le trouver... associé étroitement au Saint-Esprit à quatre reprises. Quatre fois et uniquement dans ces textes de Jean 14 à 16. Uniquement dans ces textes, Jésus présente le Saint-Esprit comme le paraclète. Nous allons voir exactement ce que cela signifie. Et puis, le même rédacteur inspiré, l'apôtre Jean, va rédiger la première épître de Jean et les deux suivantes et l'Apocalypse, et dans la première épître de Jean, il va à nouveau utiliser ce terme paraclète, mais il ne va pas l'attribuer au Saint-Esprit, à Dieu le Saint-Esprit, mais au Fils de Dieu, à Jésus-Christ lui-même, et c'est un texte que vous connaissez très bien, mais où les traducteurs ont rendu le mot paraclète différemment, c'est 1 Jean 2, 1-2, hein, 1er Épître Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, mais petits enfants, c'est un vieillard, hein, largement octogénaire en tout cas, qui écrit. Et il y a toute l'affection du vieillard que respire ce texte dans 1 Jean 2, 1-2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, c'est-à-dire afin que vous ne trébuchiez point, que vous évitiez même accidentellement de pécher. » Voilà ce que veut dire le texte ici. Le temps qui est utilisé, pas en français, mais en grec, laisse clairement entendre. Et si quelqu'un vient à tomber, s'il arrive à quelqu'un de tomber, c'est ce qui montre que le perfectionnisme sur cette terre n'existe pas dans l'Église de Jésus-Christ, même si certains pans de la chrétienté dans l'histoire ont parfois adopté cette conception visant à dire on peut vivre une seconde bénédiction qui, à partir de là, nous évite de continuer à chuter de temps à autre. Il y a ce qu'on appelle une sorte d'éradication du problème du péché. Ce texte dit le contraire. S'il arrive à quelqu'un accidentellement de pécher, nous avons un paraclet. Il est là. Vous avez le mot avocat. Généralement, hein? Avocat, vous voyez, mais c'est le mot paraclet, vous voyez, c'est intéressant. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même expiation, littéralement, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors c'est intéressant parce que nous avons déjà utilisé le mot consolateur. Nous avons déjà utilisé le mot défenseur, puisque dans Jean 14 à 16, certaines versions utilisent le mot défenseur pour traduire l'expression paraclet. Nous venons d'utiliser, de voir utiliser dans une version le mot avocat. Tout ça, c'est le même mot. Si vous avez dans votre bibliothèque personnelle la vieille version qu'on appelle la version Darby, c'est une version assez difficile à lire parce que elle utilise un français qu'on appelle archaïque, qui est assez dépassé. Beaucoup de mots ne sont plus usités aujourd'hui. Elle a aussi ses qualités. Et le souci d'être très proche du texte original, et c'est ce qui la rend parfois incompréhensible. Vous voyez, quand on veut être très littéral sans du tout être littéraire, les choses deviennent difficiles. Mais là, c'est intéressant parce que cette version Darby, dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, vous aurez le mot patron qui est utilisé. Nous avons auprès du Père un patron. Et ça fait drôle. Et cela vient tout simplement des divers usages du mot paraclet. Et quand Darby a écrit, je ne sais pas comment il l'a rendu la première fois, si ça a été un peu modifié ensuite, mais l'idée du patron n'était pas fausse, parce que à l'époque où le Nouveau Testament était rédigé, il y avait des personnages dans l'Empire romain et à Rome en particulier qu'on appelait les patrons et qui n'étaient pas l'équivalent des patrons d'aujourd'hui. C'était des personnages riches, très influents, qui avaient besoin, nous dirions dans le monde moderne, des voix du maximum de personnes pour pouvoir atteindre certaines positions dans la société. Donc, il y avait un échange de services. Il y avait une cour de clients, on les appelait des clients, qui venaient un petit peu comme avec Louis XIV assister à son lever, qui venait le soutenir, nous dirions aujourd'hui, dans des réunions électorales, bref, qui rendait toutes sortes de services à leur niveau pour assurer le standing de ce personnage, et lui, de son côté, s'engager à s'occuper d'eux dans un certain nombre de domaines. Par exemple, s'ils avaient des problèmes avec la justice, il allait faire office d'avocat. Il allait plaider en leur faveur, il allait peut-être éventuellement donner une somme s'il était nécessaire de payer une amende. Je parle en langage moderne, volontairement, voyez, etc., etc., etc. Vous voyez, un échange qui s'établissait et qui faisait de lui ce qu'on appelait dans l'Empire romain un paraclet, un patron. Voyez. Alors, on va simplement décomposer le mot paraclet, paratonnerre, vous avez des paras en plein, hein, parachute, etc. Hein? Para qui, ici, veut dire à côté d'eux. Hein? À côté d'eux, auprès d'eux, et puis clète, qui n'a rien à voir avec bicyclette, mais c'est un participe passé, donc qui se termine, là, dans ce cas, par un nœud accent aigu, et qui vient des verbes kaléo. Kaléo, c'est appelé en grec. Et on se demande d'ailleurs si, dans l'histoire des langues, le mot coq n'aurait pas la même origine. Clet, coq, vous voyez, parce que le coq, c'est celui qui appelle l'aurore. Et on pense, c'est une des, dans l'histoire de la langue, c'est une, un des sens originels possibles, vous voyez, du coq, celui qui appelle. Alors là, le paraclète, c'est donc celui ou celle que l'on appelle auprès de soi, à côté de soi. Littéralement, c'est ça, le paraclète. Quelqu'un qu'on appelle auprès de soi ou à côté de soi. Donc, celui, sous-entendu, que l'on va spécialement appeler à l'aide auprès de soi. Alors, maintenant, je vais vous donner, parce que j'ai fait des recherches dans le cadre de la rédaction de mon livre, toutes les significations possibles de ce petit mot. Vous allez voir. Alors, être appelé à côté d'autrui pour consoler, nous l'avons vu. Encourager, nous allons le voir. Exhorter, plaider, réconforter, relever, stimuler, exciter, soutenir, exciter au bien, voyez, quand on excite quelqu'un vers le bien, conseiller, défendre, protéger, représenter, interpréter, intercéder, supplier, prier, demander, inviter, reprendre avec bonté. Tout ça, c'est le paraclète. Paracaléo, vous voyez. Vous voyez la richesse absolument extraordinaire. Une infirmière, un infirmier, un médecin qui se porte au chevet d'un malade, c'est un paraclé. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'histoire d'Israël, ou de ce qui restait d'Israël, essentiellement le petit royaume du sud, qui n'était plus royaume d'ailleurs, à partir du temps d'Esdras, quand on pense que les premières synagogues se sont constituées, puisque il y avait un temple, mais qui n'était plus ce qu'était le temple Salomon, et il y a eu donc tout un réseau de synagogues qui peu à peu s'est constitué, et dans les synagogues, vous aviez donc le prédicateur, celui qui enseignait les Écritures. Et il le faisait en hébreu et en araméen. Mais le problème, c'est qu'avec les 70 ans d'exil à Babylone, vous aviez quantité de personnes qui étaient nées entre-temps, qui balbutiaient éventuellement un peu d'araméen, qui souvent ne connaissaient même pas l'hébreu, ou aussi quelques mots d'hébreu, et qui ne comprenaient pas le message du prédicateur. Et on a mis à côté du prédicateur un paraclet. C'est comme ça qu'on l'appelait. Le paraclet, c'était le traducteur du prédicateur. C'était l'interprète. Comme aujourd'hui, quand dans une réunion où plusieurs langues sont utilisées, le prédicateur est flanqué de quelqu'un qui va traduire ce qu'il dit. C'est encore une fonction de paraclet. En latin, vous avez un terme absolument équivalent, et on l'a utilisé tout à l'heure, c'est l'avocat. Le mot avocat en latin est exactement l'équivalent du paraclet. Advocatus veut dire être appelé à côté d'eux. Vous voyez, ça a le même sens, celui qui est appelé à côté d'eux. Alors nous pourrions évoquer les magnifiques textes des Écritures qui nous présentent en Jésus-Christ un merveilleux paraclet. Avec cette diversité de fonctions que j'ai énumérées dans tous ces domaines, je vous ai énuméré une vingtaine de termes différents les uns des autres qui montrent la richesse de ce service quand on accepte de répondre à l'appel, ce qui montre qu'il y a une orientation voulue de l'apôtre Paul, qui fait de cette deuxième aux Corinthiens une épître éminemment personnelle, où l'apôtre Paul, comme il le fera dans son testament spirituel, la deuxième épître à Timothée, ouvre son cœur. Il évoque ses souffrances, il évoque ses larmes, les combats qu'il a connus, tout comme les merveilleuses révélations que Dieu lui a accordées. Mais l'accent est fortement mis sur le domaine de la consolation, du réconfort, avec l'usage de ce terme en particulier. Mais vous pouvez essayer d'aller un peu à la chasse. J'ai sous les yeux 2 Corinthiens 13, 11, Colossiens 4, 8... 1 Thessaloniciens 5, 11, Hébreux 3, 13, 10, 25, Philémon 7. Je sais que certains d'entre vous voudraient noter tout ça, mais comme c'est sur cassette, j'avance, si vous êtes d'accord. Vous le retrouverez sur cassette. Je sais que c'est parfois dur de noter toute une série de... Donc vous notez ce que vous pouvez, et puis le reste, la cassette, vous donnera le complément. Donc c'est notre vocation, c'est une réponse à un appel. Et c'est cela, chers amis, qui nous amène à Barnabas. Acte chapitre 4, acte chapitre 4, verset 32, acte 4, 32 à 37 pour le moment, où je prendrai peut-être au juste les deux premiers versets du chapitre 5 à cause de la division qui est tout à fait arbitraire. Elle est voulue pour des raisons pratiques, mais elle a le tort de couper un texte qui doit se lire d'un seul trait, d'un seul souffle. Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. C'est un beau passage. C'est un beau passage, moi qui m'impressionne. Il m'impressionne parce que, à ce moment-là de la toute jeune histoire de l'Église de Jérusalem, elle est naissante, hein, elle est à ses premiers balbutiements encore, hein, elle est déjà très importante, puisque si vous lisez le verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru, on sait que 5000 hommes se sont en une seule fois joints, ou ont été greffés sur le corps de Christ, hein, sont entrés dans l'église de Jésus-Christ à Jérusalem. Ça veut dire donc que nous sommes déjà en présence d'une église qui est très très importante en nombre. Et malgré cela, les apôtres ont vu un homme qui sortait de cette multitude, dont le témoignage était suffisamment frappant pour qu'ils en viennent à lui donner un surnom et pour que son histoire soit retenue dans les Écritures. Il s'appelait Joseph, c'était un prénom, dirions-nous aujourd'hui, très courant, que l'on oublie immédiatement. Il est là pour la première fois et il est là pour la dernière fois. C'est fini. On ne parlera plus de Joseph. On ne connaîtra que Barnabas. À cause de cette qualité extraordinaire qui fait de lui, suivant les versions là aussi, un fils d'exhortation, ou encore un fils d'encouragement, ou encore un fils de consolation. Dans certains textes, il sera par exemple la Tobe, version Tobe du Nouveau Testament, il sera l'homme du réconfort. Voyez, si vous allez dans le français courant et la Bible du Semeur, ce sera l'homme qui encourage. Voyez, là, vous comprenez pourquoi nous avons commencé comme ça tout à l'heure, hein? Parce que nous avons brossé une sorte de toile de fond dans le domaine de la langue, mais qui met d'autant plus en valeur les qualités remarquables que nous allons alors développer jusqu'à demain après-midi de ce personnage, qui est un des personnages les plus marquants de l'histoire apostolique. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai repéré dans un des nombreux textes, commentaires, dictionnaires, etc., qui m'ont permis aussi de faire des recherches. Bon, il n'apparaît, le surnom donc, Barnabas, n'apparaît que 28 fois dans le texte grec du Nouveau Testament. Je dis dans le texte grec parce que dans nos versions, généralement, il est un peu plus souvent utilisé, 33 fois, tout simplement parce que parfois, pour qu'on comprenne bien de qui il s'agit, il a fallu répéter le prénom. Vous savez, ça, ce sont des choses qui arrivent. Ça ne touche pas à la vérité des Écritures, ça permet d'éviter dans le français qu'on attribue un acte à quelqu'un d'autre qu'à Barnabas, suivant la construction des phrases. Donc, ce personnage, dont le nom est 28 fois dans le Nouveau Testament, a été identifié, a été reconnu comme un authentique mini-paraclet parmi ses frères dans l'Église primitive. Et vous savez que c'est un des personnages les plus méconnus des croyants. Je suis très très frappé de voir toutes les confusions, par exemple avec Barabbas. Si je vous disais, moi-même j'ai été le premier étonné, qu'il m'est arrivé lors de certaines séries d'enseignements, d'entendre la personne qui présidait et qui m'introduisait se tromper elle-même. J'étais très gêné pour elle. Hein? Mais Barabbas et Barnabas ont été plus d'une fois pris l'un pour l'autre. Et il faut dire que, bon, c'est subtil parce que vous avez Barsabbas aussi, à deux reprises, hein, dans Acte 1, 23, ils présentèrent donc deux candidats apôtres pour succéder à Judas, hein, et l'un d'eux, c'est Joseph, appelé Barsabbas, surnommé Justus de surcroît. Si vous allez dans Acte 15, verset 22, vous allez encore avoir un autre Barsabbas, voyez. Mais là, c'est Barnabas. Hein? Barnabas. Je me souviens d'une série d'enseignements en Martinique où j'étais invité un soir de semaine dans une grande église où travaillait un missionnaire depuis une quarantaine d'années, bien connu d'ailleurs, Edmond Hitti, qui est auprès du Seigneur maintenant. Et ce soir-là, j'avais été conduit à présenter, de manière brève, pour une seule étude, la personnalité de Barnabas. C'était une étude en semaine, il y avait 800 participants. Vous voyez, les Antilles, c'est autre chose que chez nous. Hein. Et à la fin de l'étude, quand ce missionnaire a repris la parole, il a dit, écoutez, c'est la première fois en 30 ans de ministère que j'entends une prédication consacrée à Barnabas. Totalement méconnue. Et je vais même vous dire brièvement ce qui m'a conduit à m'intéresser à Barnabas, parce que c'est, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. En plus de 35 ans de ministère, je n'ai eu qu'une seule extinction de voix. Malgré les nombreux voyages, pays chauds, climat de toutes sortes, hein, et c'est une grâce. Mais il y en a eu une. Il y en a eu une, et je dois beaucoup à la grâce de Dieu lorsqu'il a fait en sorte que, à la fin d'une semaine, je n'ai plus ma voix. J'étais vraiment incapable de prononcer un mot. Et il se trouve que, dans le courant de cette semaine, nous recevions, mon épouse et moi, un cher ami qui était britannique, mais qui travaillait depuis des années en France, qui était mon paraclet, c'est-à-dire mon traducteur dans des conférences de formation internationale que nous avions chaque été pendant une dizaine d'années dans le centre de la France avec une dizaine de nations, mais qui était aussi un homme de Dieu. Je dis qui était parce que Dieu l'a rappelé auprès de lui à l'âge de 53 ans, alors qu'il servait Dieu dans une église à Bethléem, en Pennsylvanie, au sortir d'un hôpital. Il s'est écroulé sur les marches à la sortie et le Seigneur l'a repris auprès de lui. C'était un homme de Dieu délicieux. Il a été d'ailleurs directeur d'une mission en France pendant quelques années. Et quand j'ai vu que je perdais ma voix, je lui ai dit, écoute Hervé, est-ce que tu accepterais de donner le message dimanche matin au culte à ma place et de prendre la rencontre en main. Il a accepté et ce dimanche matin, j'ai vécu un des moments les plus émouvants de mon ministère parce que Dieu l'avait conduit à parler de Barnabas. Et ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé parce que c'était dans les années 73-74. Cela faisait 4 ans que j'étais en charge de cette église de Paimpol. Et au fur et à mesure que ce cher frère avançait dans sa prédication, Dieu me reprochait des choses. Il me disait, tu sais Maurice, Tu es trop dur. Tu es trop dur dans ta prédication. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait cloué le bec à sa manière pour que je puisse entendre ce message. Et je dois dire que j'ai été tellement bouleversé par la qualité du message apporté par ce frère Hervé, à qui d'ailleurs mon livre sur Barnabas a été dédié, vous le verrez, c'est inscrit en tout début, que je me suis dit, il y a certainement un tas de choses à sortir maintenant de l'étude de la vie de ce personnage à travers les Écritures. Et donc j'ai commencé à me plonger dans l'étude des quelques passages qui traitent de Barnabas. Et j'ai été absolument bouleversé par les découvertes. Et c'est ce qui a fait que peu à peu un séminaire s'est organisé et que ça aboutit à la rédaction finalement d'un livre. Dans la pratique de ce don de l'encouragement, parce qu'il est aussi présenté comme un don. Dans Romains 12, verset 8, Romains chapitre 12, verset 8, donc dans le tout début de la partie pratique de cette cathédrale de la foi chrétienne, comme elle a été appelée, la clé d'or des Écritures, disait Calvin, je crois, hein, Romains 12, il est intéressant de constater la tonalité du début de la partie pratique après un édifice doctrinal extraordinaire. Il y a tout d'abord, bien sûr, l'offrande du corps, de la personne, de ce sanctuaire que nous avons évoqué tout à l'heure, en commençant d'ailleurs par le cœur, par la tête, par la matière grise, par l'intelligence. Et puis immédiatement, à partir du verset 3, il est question de l'exercice des dons dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ. Et au verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différents, littéralement des charismes différents, selon la charisme qui nous a été accordée, l'apôtre Paul fait volontairement un jeu de mots, c'est très intéressant ces jeux de mots, que celui... Bon, on a rendu en français pour que ce soit compréhensible, que celui qui a le don de prophétie, littéralement celui qui a la prophétie, ça commence comme ça, mais on va rendre, comme le dit notre texte, celui qui a le don de prophétie l'exerce en accord avec la foi. C'est-à-dire qu'il ne raconte pas n'importe quoi. D'où nécessité de vérifier. Si on veut savoir si quelqu'un raconte n'importe quoi ou non, il faut pouvoir vérifier quelque part, n'est-ce pas ? Hein, c'est très important, surtout on va le voir avec ce que signifie ce type de ministère, on en dira peut-être un mot, que celui qui est appelé au ministère, ici c'est le mot qui a donné diaconie, diaconat, diacre, un terme plus général, mais qui a parfois eu une application très pratique, mais c'est un terme général qui pourtant dans la première épître de Pierre est placé en complément du ministère de la parole. Dans 1 Pierre 4, 10, vous aurez d'un côté le diaconat ou la diaconie et de l'autre les ministères de la parole. Comme si il y avait quand même une distinction quelque part qui se faisait dans la pensée de Dieu. Ça ne veut pas dire que celui qui exerce le diaconat n'utilise pas sa langue, mais ce n'est pas la dominante de son service. Voyez ? Hein? Donc c'est ce terme qui est utilisé ici, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, soit dans l'enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation. Nous avons notre mot ici à nouveau, voyez, parakaleo, il est là, ce qui fait par exemple que j'ai sous les yeux la version de la Bible du Semeur, que celui qui a le don d'encourager, encourage. Et c'est sûr, vous savez que parfois, en tant que disciples de Jésus-Christ, avec les nouvelles versions qui sortent, nous sommes parfois gênés et un peu choqués. Parce que pendant longtemps, on n'avait pas le choix, Et on se disait, ça, c'est le mot inspiré. Et puis finalement, on se rend compte que d'une version à l'autre, ce ne sont pas les mêmes mots. Mais vous comprenez pourquoi maintenant ? En réalité, le problème qui se pose au traducteur, mais c'est un bon problème, mais le problème qui se pose au traducteur, c'est la richesse de signification de certains mots, aussi bien dans le vocabulaire hébreu que dans le vocabulaire grec. Et donc, il va falloir choisir dans ce réservoir, et on va choisir en fonction d'un certain nombre de règles de traduction qui tiennent compte du contexte. Pourquoi dans Jean 14 à 16, souvent les traducteurs ont préféré le mot consolateur ? Mais c'est parce que le contexte général des chapitres 14 à 16, c'est un contexte de souffrance, d'hommes, même virils, mais qui vont être orphelins, c'est vrai, qui se posent un tas de questions, qui sont complètement désemparés, d'ailleurs, qui vont trahir, qui vont partir comme une volée de moineaux dans toutes les directions possibles, etc., etc., n'est-ce pas ? Et donc, les traducteurs, dans ce contexte, on dit, eh bien, ce mot paraclet, dans ce contexte-là, c'est manifestement le consolateur. Voyez ? Ça ne veut pas dire que celui qui utilise un autre terme a tort, il a peut-être vu un autre aspect. Mais ça ne change rien au message profond du texte. Ce qui serait problématique, c'est que en allant d'une traduction à l'autre, d'une version à l'autre, vous ayez un sens qui soit complètement opposé et qui détruise l'unité doctrinale des Écritures. Vous comprenez ? Et c'est pour cela qu'un bon traducteur des Écritures est quelqu'un qui doit vraiment tout d'abord avoir une bonne vie spirituelle personnelle, parce que c'est quand même le Saint-Esprit qui est derrière tout ça, et d'autre part une bonne connaissance globale des Écritures. Parce que c'est la connaissance globale des Écritures qui va aider à choisir aussi parfois les justes mots, étant donné l'usage des termes dans l'ensemble des Écritures. Enfin, ça c'est un grand sujet, je ne veux pas aller plus avant. En tout cas, que celui qui a le don d'encourager, encourage. Mais mes amis, les dons que nous recevons, et je suis persuadé personnellement qu'il y en a une multitude. Il y en a une vingtaine qui sont clairement déterminées dans les listes non limitatives, mais il y en a quantité d'autres. Et je ne vais pas vous commencer à entrer dans ces détails maintenant, parce que ce n'est pas spécialement notre thème, n'est-ce pas ? Mais ce que je voulais dire, c'est que les dons que nous recevons, ils sont faits pour se multiplier. Je n'exerce pas un don pour jouer la vedette. Et pour pouvoir proclamer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, je suis le seul à être capable de le faire. Quand j'exerce un don, c'est tout d'abord pour l'édification du peuple de Dieu et puis pour le salut des hommes. Mais c'est aussi pour que mon don se multiplie. En disant, écoute Seigneur, mais ça serait fantastique si j'ai un ministère d'encouragement tout particulier, parce que tu m'as équipé d'une manière toute spéciale pour ça, mais si dans l'église locale à laquelle j'appartiens, dans l'union d'église à laquelle j'appartiens, dans le ministère que tu me confies sur un plan plus général, je pouvais voir ce ministère se multiplier. Qu'il y ait d'autres hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles autour de moi, où je passe, ou dans l'église et je suis, qui commencent à avoir une maladie contagieuse qui s'appelle le don d'encouragement. Ils commencent à se gratter en disant « Oh tiens, ça m'intéresserait aussi ». Vous comprenez ? Et tous nos dons doivent se multiplier de cette manière. Une église vivante, c'est une église dans laquelle, qui est une pépinière de dons qui se multiplient. Voyez ? Et il ne faut jamais perdre ça de vue. Et ce que j'aime, dans le fond, c'est que Barnabas a eu un tel rayonnement, comme nous allons le voir, qu'il a mis l'eau à la bouche. Quand même dans l'histoire de l'Église, d'un certain nombre d'hommes et de femmes, mais je trouve que c'est un ministère qui n'occupe pas la place qu'il devrait occuper. Parce que, trop souvent, Barnabas a été mis sous le boisseau, il a vécu à l'ombre de l'apôtre Paul. Ce personnage Paul est un personnage d'une telle envergure que tous ceux qui sont à son ombre, on ne les voit plus. Et que même je viens de lire la dernière biographie biblique écrite par Swindoll. Je ne sais pas si vous connaissez les biographies bibliques de Charles Swindoll, qui a écrit le livre Éveil à la grâce, qui est remarquable. Mais il est en train d'écrire, et il écrit encore en ce moment, bien qu'il soit d'un certain âge, et il nous laisse des biographies bibliques. Il est américain, mais qui sont très peu marquées de la culture américaine, parce qu'il se tient aussi très près du texte biblique. Alors vous avez Esther, Élie, Moïse, David, Joseph. Et maintenant, on a l'apôtre Paul, qui est sorti ces dernières semaines. Et je viens de lire sa biographie de l'apôtre Paul. Mais même lui, il est tellement impressionné par l'apôtre Paul qu'il fait vraiment de Barnabas un second fifre. Alors que manifestement, quand on lit les textes de très près, on se rend compte que Barnabas a eu un ascendant remarquable sur Paul. Et Dieu s'est servi de Barnabas pour que Paul soit dans certains domaines ce qu'il est devenu. Voyez ? Mais nous aurons sans doute l'occasion de le dire. Alors, cette partie-là, j'aimerais quand même la terminer par une question pratique, parce qu'on va être pratique, hein. L'introduction, elle est ce qu'elle est, mais on va toucher une quantité de domaines très pratiques et complémentaires les uns aux autres. Et j'ai une première question pratique à poser. Barnabas est un surnom. Quel pourrait être mon surnom dans mon église locale ou dans une autre association? Je ne parle pas de notre vie de famille. Si les autres me donnaient un surnom, remarquez bien comment j'ai posé la question. Je n'ai pas posé la question dans l'autre sens. Je dis, quel surnom les autres vont-ils me donner? C'est différent. J'utilise souvent l'histoire de Blanche-Neige et des sept nains, n'est-ce pas? C'est toujours très intéressant. J'ai remarqué la semaine dernière, mais dans un tout autre cadre. Non, c'est au Sénégal que même nos amis à Dakar, ils connaissaient pas mal Blanche-Neige et les sept. Dans les capitales internationales, ça se comprend mieux, n'est-ce pas? Mais vous en connaissez quelques-uns de ces personnages avec leur surnom? Oh, si, oui. Oui. Oui, c'est sorti, là, ça a fusé, n'est-ce pas? Oui. Atchoum, dormeur, grincheux, joyeux, prof simple et timide. Alors, on pourrait les commenter, hein, chacun. Ce serait intéressant. Alors, j'en ai relevé un particulier dans une église locale où quelqu'un avait tellement l'habitude de dire la chair, C-H-A-I-R, est faible, qu'on a fini par le surnommer la chair est faible. Et vous en avez dans la Bible, Jacques et Jean, les fils du tonnerre. C'était pas toujours très flatteur, hein, pour ces personnages. Et, par contre, dans une revue missionnaire, il y a bien des années, j'ai relevé un Barnabas en Angola en 1940. Il y avait un village qui était le village d'un croyant qu'on appelait aussi Papa Arnaldo. Il avait un drôle de nom et pour simplifier, les gens lui avaient donné ce surnom qui exprimait bien l'impression qu'il recevait de son message. Il avait surnommé celui qui nous console. Celui qui nous console. Alors il se trouve que, oh, c'était en 1983, j'étais l'orateur d'une conférence nationale évangélique en Côte d'Ivoire, à Daloa, aux côtés de deux orateurs africains. Et on m'avait demandé aussi de traiter ces questions relationnelles d'Église. Et j'avais évoqué les surnoms. Et j'avais donc évoqué celui qui nous console. Et à la sortie de l'étude au cours de laquelle j'avais évoqué celui qui nous console, une demoiselle, je ne savais pas qu'elle était demoiselle, parce qu'elle avait déjà un certain âge, mais elle l'était, et elle l'est toujours d'ailleurs, mais plus âgée, secrétaire générale de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, m'a serré la main et m'a dit, écoutez, j'ai été très très touché par ce que vous avez dit concernant Papa Arnaldo en Angola. Parce que, figurez-vous que je l'ai connu. Je l'ai connu et ayant été missionnaire pendant un certain nombre d'années en Angola, jusqu'à ce que la situation politique, vous le savez, se dégrade et que les missionnaires quittent le pays et elle est partie comme cela en Côte d'Ivoire pour continuer à exercer son ministère dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Elle m'a dit, mais c'est vrai. C'était vraiment un homme de Dieu, tout simple, mais qui avait ce don de conseiller, d'encourager. Il avait un rayonnement tout particulier. Et je relevais il y a quelque temps le surnom qui était donné à la maman du missionnaire François Coyard, qui était un des rares grands missionnaires très connus français, issu du centre de la France, d'Asnières-les-Bourges, où il est né en 1834, et qui est donc parti au Lesotho puis au Zambèze. Ce sont les noms d'époque, les noms ont changé depuis, qui a exercé un magnifique ministère et qui était très marqué par sa maman, une femme très pieuse, qui était surnommée dans le village la Mère Bonté. La Mère Bonté. Alors c'est déjà un premier défi dans le cadre de notre temps de réflexion. Quel serait notre surnom ? Si nous jouions à ce jeu dans notre vie d'église locale. Alors, allons quand même un peu plus loin pour pouvoir terminer cette partie. Parce qu'il y a quelque chose dans Acte 4 qui m'a, qui m'a pris à contre-pied, que je n'attendais pas dans l'examen du texte d'Acte 4. Verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, pendant très longtemps, chaque fois que le mot « exhorter » était utilisé, immédiatement, en quelque sorte dans mon esprit, hein, c'est une manière d'expliquer la chose, je voyais un petit organe pesant aux alentours de 60 grammes, mesurant une dizaine de centimètres de long, qui sert à l'exhortation. Exhorter, Eh oui, mais c'est comme ça. On vit de réalité et pas de rêve ou d'idéal. Quand on exhorte, au point même que le côté exhorté a pris parfois un tour péjoratif, hein, assez négatif. Hein. Il s'est fait exhorter. Il s'est fait remonter les bretelles. Alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce texte. Non seulement dans la mesure où on peut remplacer le fils d'exhortation par le fils d'encouragement, hein, ça donne un peu de lumière à tout ça, où ça montre la manière d'exhorter. Hein. Mais aussi parce que, à ma grande surprise, Barnabas apporte une aide financière. C'est-à-dire que la première fois que Barnabas nous est présenté, c'est pas dans un discours. La première chose qui nous est dite à son sujet, c'est qu'il touche à un prolongement de sa personne. Portefeuille. Et c'est d'autant plus remarquable que, dans ma compréhension des Écritures, l'acte, le geste de Barnabas s'inscrit en contraste absolu avec un autre geste dramatique, lui, du début du livre des Actes. Dans Acte 1, verset 16, le début de ce discours de Pierre en vue d'une désignation d'apôtre, homme-frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu littéralement le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ, avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Vous voyez, le livre des Actes, très vite, hein, touche à une histoire de chant, mais d'un homme qui achète un chant. Avec, hein, on sait ce que ça signifie derrière, et qui ensuite va se suicider dans ce champ. Et par contraste, voyez, quelques chapitres plus loin à peine, réapparaît l'idée du champ, mais avec un homme de Dieu qui a une attitude totalement inverse, n'est-ce pas? Il est lévite. Alors, on ne sait pas où se situait ce champ, comme il avait de la famille à Chypre, etc. Mais ce qui est certain, c'est que les propriétés lévitiques, notamment les champs, le livre de Lévitique indique que c'était des propriétés inaliénables, c'est-à-dire que le lévite les gardait. Voyez. Or, il vend. Il vend le champ et il vient déposer l'argent aux pieds des apôtres. Son engagement et son soutien n'est donc pas simplement verbal, c'est un soutien concret, c'est une plaidoirie en acte. Voilà qui ouvre un champ de réflexion pratique extraordinaire concernant notre vocation, notre appel à exercer ce service d'encouragement déjà à l'intérieur de l'Église locale. Ça ne passe pas uniquement et de manière privilégiée par le canal de la langue, même si la langue a son importance. C'est, comme nous le verrons, une opération mobilisation de toute notre personne. Dans ce cas précis, c'est le portefeuille. Nous verrons dans d'autres cas que Barnabas va mobiliser d'autres dimensions et d'autres organes de sa personne pour ce ministère. Mais je trouve qu'il est intéressant que ce soit par là qu'il nous ait d'abord présenté. L'engagement qui coûte, et ça rejoint de manière remarquable en tout cas deux textes des Écritures. Le premier dans Jacques 2, 14 à 17. Jacques 2, 14 à 17. Mes frères, Jacques 2, 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Jacques 2, nous avons lu les versets 14 à 16, et puis alors nous avons dans la première épître de Jean, au chapitre 3, un texte éminemment pratique aussi, 1 Jean 3, 16, 18. Nous avons connu l'amour. Et là, dans le sens aussi d'expérimenter, hein, connu l'amour. Nous avons expérimenté de manière concrète l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Notre vie. Si quelqu'un possède les biens du monde. Et c'est intéressant parce que le mot bien ici, c'est un mot grec qui en français a donné biologie. Bios. Les biens. Le mot d'au-dessus, c'est le mot qui a donné zoologie. Vous voyez, le zoo. Vous voyez. Alors, c'est intéressant parce que, comme si l'apôtre Jean faisait relation entre les deux, n'est-ce pas, hein? Nous devons donner notre vie, et si nous donnons notre vie, ça veut dire que si nous possédons des biens, bios, hein, les biens, la vie, mais la vie, dans le domaine le plus courant, le plus pratique, hein, ce qui nous fait vivre, ce qui nous permet de vivre, etc. Si nous possédons ces biens-là, et que voyant notre frère dans le besoin, nous lui fermions nos entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en nous? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous apaiserons, nous rassurerons, nous persuaderons même nos cœurs devant lui. Je pense à une histoire tout à fait authentique qui s'est passée dans un pays de Scandinavie, où dans le cadre d'une vie d'église locale, sans doute à l'issue d'un culte ou d'une réunion, un couple de croyants avait pris la liberté d'évoquer ses difficultés dans un entretien très libre et spontané, informel, avec d'autres membres de l'Église. Et simplement, il disait qu'il traversait une période financièrement difficile. Et l'interlocuteur ou l'interlocutrice qui était en face d'eux, se dira, vous savez, c'est difficile ici-bas. Bon, elle s'est lancée dans un de ces discours pieux, bien évangéliques, dans lequel, à un moment donné, elle a même dit, vous savez, c'est vrai, sur la terre, c'est difficile, mais quand vous pensez que, au ciel, nous avons une couronne, des couronnes merveilleuses qui nous attendent, etc. Puis à ce moment-là, le couple dit « Oui, oui, écoutez, c'est très bien, nous vous remercions, mais en attendant la couronne dans les cieux, est-ce que vous n'auriez pas une demi-couronne pour nous ?» C'est la monnaie du pays, n'est-ce pas ? Sens pratique. Hein? Et c'est vrai que dans nos vies, ça peut être un mécanisme de fuite. D'utiliser la parole de Dieu, c'est tellement pieux. Là où Dieu nous dit dans notre cœur, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pratiquement ? Je sais pertinemment pour l'avoir expérimenté de manière cuisante, que l'aide pratique que nous sommes appelés à apporter autour de nous présente des risques, qu'elle demande de la sagesse, une certaine dose de foi, une bonne carapace pour ne pas être déçu quand l'aboutissement n'est pas ce que nous souhaiterions. Hein, on veut être réaliste. Je me souviens, dans l'église où j'étais pasteur en Bretagne, nous étions comme ici avec le logement juste à l'arrière de l'église, et nous étions la seule église protestante, évangélique et protestante de toute la ville, 10 000 habitants à peu près. Nos relations avec les autorités de la ville étaient excellente, et on était vraiment partie prenante du fonctionnement de la ville, si bien que tous les services sociaux connaissaient l'adresse du pasteur, au lieu où avaient lieu aussi les réunions, hein, tout ça était ensemble. Ce qui fait que on venait parfois chercher du travail à 1 h du matin. Je me souviens d'une nuit où nous avons été comme ça, appelés de voix forte en pleine nuit depuis l'extérieur. Nous n'avons pas ouvert d'ailleurs. Quelqu'un qui était très excité, qui nous demandait du travail, à qui nous avons dit, écoutez, le jour est fait pour demander du travail, pas la nuit. Alors là, je peux vous assurer que nous avons vécu de ces situations. Mais en prenant quand même des précautions et surtout en ayant le souci que notre aide soit une aide intelligente, qu'elle soit une véritable aide. Nous avions pour règle à ceux qui passaient de ne pas donner d'argent. Nous l'avons fait quelques rares fois, mais c'était une des règles. On préférait éventuellement payer une nuit au petit hôtel d'à côté ou aller payer, prendre un ticket restaurant, etc. Bon, mais ceci étant dit, même si c'est compliqué dans le monde d'aujourd'hui avec la drogue, etc., et toutes ces choses, et qu'on ne sait pas toujours très bien comment faire pour aider, surtout qu'il y a aussi tous ceux qui en profitent, nous sommes néanmoins appelés d'abord, d'ailleurs, dans le cadre de l'Église locale, dans la solidarité de l'Église locale, à exercer ce ministère qui a été celui de Barnabas à l'endroit de ses frères, puisque cette Église était composée d'un certain nombre de membres assez nombreux qui étaient persécutés, qui, parce qu'ils étaient issus d'un judaïsme conservateur qui ne voulait surtout rien savoir de ce christianisme naissant, se sont retrouvés du jour au lendemain à la rue dans des situations extrêmement précaires, n'est-ce pas ? Ce qui a expliqué qu'ils se retrouvent dans un communautarisme, hein, rassemblant tous leurs biens, vivant énormément ensemble, mais ça c'était pour une situation de persécution donnée à une époque donnée, pour une courte période, et non pas à faire de manière générale comme on a voulu parfois le faire dans l'histoire de l'Église, et où ça s'est traduit par des catastrophes. Hein. Il y a dans l'histoire allemande, etc., des exemples qui sont très très problématiques dans ce domaine. Donc je tiens quand même à souligner l'importance que nous ayons cette vision de l'encouragement, du soutien qui aille au-delà, qui va au-delà des paroles, qui engage véritablement nos personnes, et que nous soyons prêts à dire, écoute Seigneur, montre-moi comment je puis être déjà dans l'Église locale et puis au sein du corps de Christ, de manière sage, ce fils et cette fille d'encouragement, en étant prêt à toucher à ce prolongement de ma personne qui s'appelle mon portefeuille. Alors vous avez un exemple dans 1 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens 8, dans les premiers versets, qui introduisent deux longs chapitres qui traitent des finances. Ces finances, mes amis, qui nous posent tant de problèmes. Les finances. Vous savez que 16 des 38 paraboles de Jésus traitent de l'approche matérielle des finances. Vous avez 2000 passages dans les Écritures qui traitent directement de la gestion matérielle et des finances. Vous en avez 500 qui traitent de la prière. Alors je ne veux pas dire qu'il faut prier 25% du temps par rapport à l'usage des biens, mais c'est simplement pour souligner ce côté tellement pratique des Écritures qui nous rejoint dans des domaines où nous n'avons pas forcément envie d'être rejoints. J'ai un séminaire qui traite de la gestion des biens, que ce soit immobilier, mobilier, finance, etc. C'est le séminaire qui m'est le moins demandé. C'est intéressant. Mon cher ami André Adoul, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années en équipe, dans la même équipe de France Évangélisation avec lui. André Adoul a écrit un livre aussi là-dessus, Dieu et mes sous. Et dans nos nombreux apartés, partage ensemble, il faisait la même constatation. Il me disait, même avec mon bouquin, cette question de la gestion financière et des biens, ça c'est quelque chose... Vous savez, dans la relation d'aide, dans le secret d'un entretien avec quelqu'un qui veut régler des problèmes, vous pouvez entendre énumérer toutes les fautes possibles et imaginables. Dans le domaine des travers les plus odieux de la sexualité, etc. Mais vous n'entendrez pas quelqu'un qui vous dira d'emblée « Mon péché, c'est que je suis avare. » C'est fou ce qu'on est prêt à confesser, mais il y a une espèce de zone interdite qu'on ne veut pas aborder. Cette question de la gestion des biens. Elle est fondamentale. Et l'enseignement des Écritures est fantastique. Et je suis persuadé que si nous étions plus au clair dans ce domaine, même nos vies d'Église seraient révolutionnées. Je pense que la conquête évangélique au sens beau du terme, l'évangélisation, le soutien des ministères, quand on voit, et je le vois, quand on voit combien certains ministères ont de la peine à tourner, mais jamais. Et pas de gens paresseux, de familles, de serviteurs qui vraiment se donnent, qui travaillent dans des régions difficiles, souvent assez isolées, n'est-ce pas? C'est pas parce que nous n'avons pas d'argent. C'est parce que Dieu n'est pas Seigneur de nos biens. C'est ça notre problème. Parce que quand on voit dans certains pays, notamment d'outre-mer, ou même d'Europe, au niveau de vie plus bas que le nôtre, les qualités de ministère d'encouragement, les qualités d'hospitalité, ça c'est émouvant. C'est émouvant de voir ce que des gens qui ont très très peu de moyens sont capables de faire quand ils considèrent que ce qu'ils ont n'est pas à eux, mais que c'est au Seigneur, qu'ils en sont les gestionnaires, les gérants, et qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu de la manière dont ils ont géré ici-bas. Disons-le, parce que ça s'inscrit tout à fait dans le cadre de ce qu'on a dit. Alors je lis, et puis on va quand même s'arrêter, parce que le temps passe, hein, mes amis. 2 Corinthiens 8, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. » Ah, et ça c'est un terme clé dans 2 Corinthiens 8 et 9. Hein. La toile de fond de la libéralité, d'une saine gestion des biens, mes amis, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas la sévérité de Dieu. C'est la grâce de Dieu, la beauté de Dieu. Et une beauté hyper généreuse et une générosité tellement grande qu'elle est allée dans la vie du Fils de Dieu jusqu'au sacrifice suprême. Ça, c'est la toile de fond. Au point d'ailleurs que le terme grâce, si je me souviens bien, doit jalonner au moins une dizaine de fois, oui, huit fois en tout cas, les deux chapitres. La grâce, nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu. J'ai l'impression qu'il devait être fou de bonheur quand il commençait cette partie-là, l'apôtre Paul, qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante, leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Alors j'attire votre attention sur le verset 4, parce qu'il est d'une richesse inouïe. Nous demandant avec de grandes instances, eh bien figurez-vous que dans cette petite locution-là, vous avez le mot grec, je vous le prononce en grec, Paraklesios. Paraklet est là. Il est là, dans ce verset 4. C'est le mot instance. Voyez ? Avec de grandes instances, avec beaucoup d'insistance, c'est l'idée de l'avocat qui plaide. Voyez ? Il y a là un plaidoyer. On plaide de tout son cœur parce que on veut rendre service. C'est extrêmement fort. Et d'ailleurs, ça continue. Il est remarquable, ce texte. Nous demandons donc avec un plaidoyer brûlant, n'est-ce pas, la grâce de communier. Prendre part ici, c'est communier. C'est un terme qui a été francisé par les théologiens, la koinonia. Et ça, c'est un terme qu'on voit dès le début dans Actes, hein, dans Actes 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était koina entre eux. Koinos, koinonia, c'est la communion. Vous voyez ? La véritable communion dans les Écritures, ce n'est pas d'être assis un à côté de l'autre sur des chaises en chantant ensemble des cantiques, en priant ensemble, en écoutant la parole de Dieu ensemble, en faisant un certain nombre de choses ensemble. Dans le domaine d'une piété qui s'entend, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Ce n'est pas ça la véritable communion. Je pense à la célèbre sculpture sur la prière,
je crois que c'est Dürer qui a dû... c'est célèbre, ça. Mais la koinonia, c'est ça. C'est une interpénétration. Si je demande à une personne de venir ici pour détacher une main de l'autre, elle n'aura pas de difficulté. Mais vous savez que ça, c'est un lien qui est extrêmement difficile à briser, au point que certaines personnes ont une telle puissance physique à ce niveau-là qu'on est capable de leur casser les phalanges pour qu'avec douleur, elles finissent par lâcher et détacher une main de l'autre. C'est extraordinaire, ça. Une véritable communion, c'est ça. C'est un lien très étroit qui est tissé avec toute une série de fils, dont des fils qui partent de la langue, mais quantité d'autres fils qui partent de la solidarité réciproque et de tous les aspects que nous allons voir ensemble. Ça, ça donne une image de la communion tout à fait différente de ce que nous sommes. On a réduit la communion. Au lieu de montrer généralement ce qu'elle est si fortement dans les Écritures, grâce à la, grandes instances, la grâce de communier à l'assistance destinée aux saints, là aussi le mot grec, c'est diakona, voyez, le service destiné aux saints, un service financier destiné aux saints. J'ai relevé dans le Nouveau Testament grec 11 passages dans lesquels le mot koinonia, communion, est directement lié à l'utilisation des sous et des biens. Directement. Le mot est utilisé, comme nous l'avons vu ici, pour parler du partage des biens dans l'Église, avec des exhortations, justement, à partager les biens. J'ai toute la liste ici, dans Actes, dans Romains, dans 2 Corinthiens. C'est incroyable. On est étonné de voir jusqu'où la communion pratique financière avec ses biens, jusqu'où elle va se fourrer, voyez. Et Paul avait raison de dire ceci des Macédoniens, parce qu'il a été soutenu d'une manière extraordinaire par l'église de Philippe. L'église de Philippe l'a soutenu pendant des années et des années, des années, de manière extrêmement fidèle, et il le leur dit, si vous lisez Philippiens chapitre 4, il évoque le soutien des Philippiens, 10 ans après que l'Église ait été fondée, et pendant ces 10 années, ils ont été fidèles pour l'aider et l'encourager dans son ministère.